on s'en va au baseball, les amis. Venez nous rejoindre. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenons soin des autres. Ensemble, on se retrouve demain midi dans le Pit Stop. Demain, 14h. 14h! Avec les demoiselles. Bye-bye!
Pendant que vous êtes sur le terrain de camping, le terrain de baseball ou le terrain de frisbee, Boulevard est sur le terrain pour continuer de vous informer tout l'été de ce qui se passe dans notre ville. À Boulevard 102.1. Vous en profitez, on vous informe.
Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. Juste avant de te présenter mon invité de ce soir, qui est une grosse pointure, je peux te le dire. On va regarder ce qui se passe côté météo, partiellement nuageux pour ce soir, des probabilités d'averse à 40 % ce soir et après minuit, nous mentionne-t-on, minimum de 10 degrés pour ce soir et cette nuit. Mercredi, demain, une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 20. Jeudi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 23. Et vendredi, ce sera nuageux avec un maximum de 20 degrés. Mon invité de ce soir, le réalisateur Ricardo Troggi, est avec nous pour 60 minutes.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir de lui jaser ce soir. Son nom, c'est Ricardo Troggi. C'est un réalisateur qu'on aime bien ici au Québec. Salut, Ricardo.
Salut, bonjour.
On est très content de te jaser. En fait, je suis très content de te jaser. Je vois que tu passes beaucoup de temps dans ta voiture, Ricardo, parce qu'à chaque fois que j'ai des entrevues avec toi, tu me permets de les faire de un merci, mais tu fais ça souvent sur le fly entre deux trucs que tu as à faire. Merci de prendre
le temps. Oui, je ressemble un peu à un gars qui a fait de faillite depuis une couple d'années, puis qui vit dans son char. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça pour l'instant, ma réalité. Donc, c'est juste une histoire d'horaire, c'est tout.
Exact. Hey, j'ai pensé à toi ce matin. Je sais pas si tu as vu l'article du Journal de Montréal, Journal de Québec, des gens, des hommes d'affaires de Québec qui mentionnent avoir été floués par un acteur qui vient de Baie-Comeau, mais qui habite maintenant en République dominicaine avec sa conjointe qui serait aussi actrice. Les gars disent avoir été floués de près de 450 000 $ et eux pensaient financer un film. Fait que je me suis dit, tiens, on va jaser de ça avec Ricardo Troggi. C'est quoi, de quelle façon on finance les films aujourd'hui au Québec versus à l'étranger? Mais je continue avec cette histoire-là. Donc, deux hommes d'affaires de Québec qui sont en discussion avec un acteur qui vient du Québec, mais qui aujourd'hui travaille à l'étranger. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on demandait du côté des financiers une part d'environ 500 000 $ là, pour débuter le projet. Et toutes les transactions se seraient faites avec de la crypto-monnaie. Ça a l'air qu'il y avait des gens de Dubaï aussi qui étaient intéressés à ce projet-là. Et le film qu'on voulait faire, là, tu vas rire un peu, mais on voulait faire un film sur Ferrari, donc sur Enzo Ferrari. Puis d'ailleurs, le film, c'est déjà fait. Là. Il est sorti en salle, il y a de ça, je pense c'est 2023-2024. Et on mentionnait aussi que cet acteur qui venait de Baie-Comeau avait été pressenti pour jouer le rôle de Gilles Villeneuve dans le film. Donc, les hommes d'affaires étaient très rassurés. Ils ont décidé d'avancer de l'argent en crypto-monnaie. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais ils n'ont jamais revu la couleur de cet argent-là. Et l'acteur qui avait demandé cet argent-là ne semble plus leur répondre. Donc, toute cette belle histoire-là est en cours actuellement. C'est-tu courant, ça, que des entreprises extérieures désirent financer des films? De quelle façon ça fonctionne au Québec versus comment ça fonctionne à l'étranger, Ricardo?
Moi, la première fois, en fait, j'ai été victime à un moment donné, il y a peut-être une dizaine d'années, d'une dame qui s'était présentée. Elle voulait faire un film sur la famille Rizzuto, puis tout. Mais puis, je veux dire, honnêtement, en deux meetings puis cinq téléphones, on s'est tout aperçu que la personne, disons, appartenait pas au milieu tant que ça, puis tout. Puis on a remonté, puis on s'est aperçu que, bon, c'était pas viable et tout. Mais de toute façon, je disais qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire une espèce de coup d'éclat en production cinématographique, du moins à Montréal ou au Québec. Tu sais, c'est pas long, c'est pas difficile de faire ses devoirs puis de trouver enfin deux, trois preuves qui vont te donner une indication comme de quoi la personne est plus ou moins sérieuse. Dans le cas de toi, Sébastien, je regarde sa page IMDb, je vois bien qu'il a participé à des films et tout, je sais pas dans quel... Ou alors, à moins que ce soit une fausse page, ça, c'est pas mon bag, je peux pas te dire ces trucs-là. Enfin... Ça a l'air d'une recherche facile à faire, puis on voit bien qu'elle existe. Donc, ça, c'est possible. Mais ce que j'ai le goût de dire aux gens, si jamais, écoutez, pour le peu d'entre vous qui risquent peut-être d'avoir le goût de faire un film comme ça un matin en vous levant, puis de flouber 10-15 millions, vous allez avoir de la difficulté à faire un film. Je prends mon cas. Si j'étais réalisateur, puis on voulait m'attacher à un projet du genre, ma première question, ce serait d'accord. Pouvez-vous me parler de date et surtout, pouvez-vous me parler de compagnie de distribution? Et écoutez bien, tout le monde, c'est ça qui est important en cinéma, c'est que si vous n'avez pas une compagnie de distribution d'attacher à un projet, peu importe sa grosseur, ben, ce projet-là est peut-être douteux dans la mesure où les distributeurs sont ceux qui vont assurer que votre film va se ramasser au bout de la ligne dans des salles de cinéma. Ils ne sont pas 5000 à avoir accès à ces salles-là. Ils sont souvent propriétaires de plusieurs salles. Fait que... Comprenez-vous, ce serait comme promettre à quelqu'un de construire une Ferrari, pour revenir à votre sujet, puis quand on a le temps de lui demander, on le claque où ce char-là? Bon, on ne sait pas, on verra ça à un moment donné. Puis il faut que le véhicule puisse se promener quelque part. Fait que il faut que le film puisse se promener, soit donc associé à des distributeurs. Et sans ça, ben le projet est voué à se ramasser sur une tablette ou carrément pas exister. J'étais un peu aussi surpris de voir que des investisseurs écoute, à l'étranger, c'est peut-être chose de plus courant d'avoir des films faits au privé, mais ici, n'importe quel investisseur devrait savoir que tu sais, le cinéma canadien, pour pas dire seulement québécois, donc et c'est pas une entreprise lucrative. C'est une entreprise qui est vouée à souvent un échec financier dans mesure où tout est subventionné. On sait que même si le film fait, disons, je sais pas moi, je vous donne un exemple. Mon film qui a coûté le plus cher, c'est probablement 1995, qui était le plus récent aussi. Puis juste que pour pas qu'on part en peur, c'est cet argent-là, je ne sais pas dans quelle proportion, mais en grosse proportion, c'est-à-dire quelque part entre 60 et 90 %, est destiné à des salaires. On fait travailler du monde, vous comprenez? C'est pas... On n'achète pas des affaires avec ça, puis c'est quelque part dans un hangar, puis on s'en stoche. C'est vraiment des salaires, donc vous faites rouler un entreprise. Donc, disons que mon film a coûté 8-9 millions, puis là, il a rapporté 3 millions en salle, 3 millions qui vont être séparés 50-50 avec le distributeur qui, lui, a déjà investi pour la promotion de l'argent de ses poches. Puis les salles, eux aussi, vont investir de l'argent de ses proches. Ils ont aussi une façon d'avoir des subventions, mais c'est moins important que dans mon cas, dont le salaire est assuré comme ça. Vous voyez, là, on a 3 millions de récupérés sur 8. Donc, il y a un manque à gagner de 5 millions. Si mon film avait fait, disons, 8 millions, bon, ces gens-là, ce serait quand même payés, c'est-à-dire distributeurs, c'est-à-dire propriétaires de salles. Et dès qu'il y aurait eu un peu plus d'argent, bien là, on rembourse les institutions qui ont fourni le film, et c'est bien correct comme ça, vous comprenez? Fait qu'il faut se rendre vraiment loin avant que le film devienne profitable. Et ça, puis je vous donne moi-même un exemple, dans la mesure où la plupart de mes films ont bien fonctionné. Donc, vous pouvez imaginer que si vous vous lancez dans un projet comme ça avec un réalisateur dont les films ont bien fonctionné, mais ça ne vous assurerait pas non plus de faire du fric. Donc, la production privée au Québec, ça se fait, ça a déjà fonctionné, mais c'est très rare. Puis à ce sujet, il faudrait peut-être parler à un gars comme Christian Larouche qui l'a fait, lui, pour, avec un film qui s'appelait « Un, deux, trois parties » à l'époque, et qui a, c'est un film pour adolescents, je pense, et qui avait réussi à rentrer dans ses films. Il y a vraiment une gymnastique particulière à faire qui n'est pas exactement la même dynamique d'un film conventionnel comme ceux que je fais.
OK. Ricardo Troggi, quand il y a l'idée de faire un film, toi, tu dois approcher qui pour le financement au Québec? De quelle façon ça fonctionne? C'est-tu des fonctionnaires de l'État qui évaluent ton idée, puis après ça, ben si subvention est là, ils te l'octroient?
C'est un peu ça, mais disons que pour être plus précis, ce qui arrive, c'est que pour éviter que n'importe qui, disons, s'il y avait un bureau de cinéma, enfin, la SODEC ou le téléfilm, pour pas que n'importe qui arrive à la porte, cogne et demande, mettons, une rencontre, il faut qu'il y ait une forme de filtre. Cette forme de filtre-là va être assurée par les producteurs. Eux vont... Cette maison de production pour aller à téléfilm et à la SODEC est un distributeur. Comprenez-vous, il faut déjà que vous ayez rencontré ces gens-là, vous les ayez convaincus de votre projet pour que ces gens-là fassent « OK, on pense qu'il y a du potentiel, donc on va t'amener avec nous, on va aller voir téléfilm et on va aller voir la SODEC pour éviter qu'il y ait de la perte de temps et tout ça, tu comprends? » Mais même à ça, eux autres, les producteurs, vont peut-être encourager 5 projets, ils vont avoir 5 meetings importants avec les deux institutions dont je parle, et après ça, peut-être que ces institutions-là en prendront aucun cette année-là, vont peut-être en prendre un seul. peut-être deux. C'est assez rare que ça soit deux. C'est comme ça fonctionne. Fait que, il y a une longue liste d'attente qui existe déjà quelque part pour les productions chaque année. Je sais pas, je vous parle de entre 40 et 70 personnes peut-être qui attendent, puis là-dessus, il va y en avoir 5-6 qui vont peut-être être encouragés.
T'sais. OK. Et dans ton cas, toi, bon, tu es de plus en plus connu. Là. Je veux dire, tu as commencé avec la course Destination au monde de mémoire. Après ça, tu as fait des courts-métrages, tu as fait des longs-métrages. Moi, je me souviens de Québec-Montréal, Horloge biologique. Quand tu es allé voir les gens pour parler de 1981, parler de ta propre vie, comment on t'a perçu? OK, tu vas faire un film sur ta propre vie. Ça a-tu été compliqué vendre ce film-là pour du financement?
Regarde, ça l'aurait été si j'avais pas eu le succès des deux autres. Puis là, je venais de faire Horloge biologique. Puis ça, Horloge biologique, ça a été mon plus gros succès au box-office, disons. En fait, à peu près le même box-office que Maurice Richard, on est sorti la même année que vous comprenez, avec moins de promos, mais juste pour vous dire le succès du film. Donc, ça a été très fort. Donc, lorsque tu as un succès fort comme ça, du moins à cette époque-là, on est en 2004-2005, tu peux imaginer qu'en te présentant dans les institutions, on va t'encourager relativement vite, et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai eu un go de production avec 1981 du premier coup. Mais bizarrement, pour 87, je ne l'ai pas eu de suite, tu comprends? Ils m'ont fait attendre un coup. Après 91, je pense que je l'ai eu de suite. Tu sais, j'attends, j'ai pas attendu beaucoup dans ma vie. Je suis en train de plaindre. Je veux juste vous dire que quand même, c'est pas systématique, même si tu as du succès. Puis rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. C'est une longue file d'attente. Et des fois, là, dans cette ligne d'attente-là, tu avais Pierre Falardeau, tu avais du monde de même. Je veux dire, c'est pas des tapons, là. Fait que on peut comprendre facilement que, tu sais, la compétition est forte. Puis que j'ai compris que dans ma vie, j'allais à l'occasion de voir attendre. J'ai attendu pour 95, mon dernier film aussi. Même si 91 avait eu un très beau succès. Puis les deux autres films que j'ai fait avant aussi avec Louis Morissette. Donc, tu sais, c'est pas gage de t'auras pas de passe-droit. Mais c'est ça. Idéalement, en fait, je suis juste content de les faire dans un temps relativement court ou acceptable, je devrais dire. Mais si ça se passe pas, ça sera jamais facile de faire des films ici là,
puis quand
à cause du fric, évidemment.
Quand tu les approches, ces gens-là, est-ce que tu dois leur montrer au complet de A à Z ton scénario, tout le papier au complet? OK. Puis est-ce qu'eux autres, ils ont un droit de regard? Est-ce qu'ils peuvent te dire tu devrais changer ci ou ça? Ça doit être fatigant un peu, c'est ton histoire?
Oui, il y a un droit de regard. Je vais revenir un petit peu plus loin parce que là, je veux dire, à partir du moment où j'ai fait 81, que ça a fonctionné, 87, c'était très facile pour les institutions de lire mes scénarios puis de voir à peu près où je m'envoyais puis d'entendre ces personnages-là qui avaient déjà entendu et vu. Ouais. Ça te fait une lecture beaucoup plus facile et agréable, je te dirais. Dans le cas de 81, un détail intéressant, c'est qu'on m'avait prévenu que là, comprenons une autre affaire. Avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez un truc. Quand on parle d'institutions, donc le gouvernement, ce même gouvernement-là va engager du monde comme moi pour faire les lectures de ces scénarios-là. Ils ne vont pas s'improviser professionnels, surtout quand c'est gestionnaire. Ils ont besoin d'avoir l'avis. Donc, ils vont engager d'autres réalisatrices, réalisateurs ou scénaristes pour faire ce boulot-là. Maintenant, est-ce que ces scénaristes-là sont des gens qui travaillent beaucoup? Est-ce qu'ils ont tant d'expérience que ça? Ça, c'est plus discutable des fois parce que des fois, si tu es en train de lire, c'est parce que tu n'es pas en train de tourner. Fait que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais ça empêche. Moi, je suis déjà allé une fois, donc c'est pas dire systématiquement c'est des gens qui ne travaillent pas et qui ne travailleront jamais. C'est pas ça. Mais je vous dis juste, bon, c'est peut-être pas la crème tout le temps, mais quand même des gens qui savent de quoi ils parlent quand même. Donc, on va faire lire les trucs à ces gens-là. Et pour 81, on m'avait prévenu que selon ce qui était écrit, la mère était très agressive. Le personnage de la mère, Claudette, était très agressive, puis qu'elle n'était pas du tout maternelle et que ça inquiétait les institutions. Un point où j'ai fait, mon Dieu, mais là, j'ai dit, tu sais, je suis allé exister cette femme-là, puis j'ai jamais douté de l'amour de ma mère. C'est juste que la manière qu'elle s'exprime, puis aussi les situations dans lesquelles je la mettais, où elle plus, tu sais, est en confrontation, bien, ça lui donne pas ça lui donne pas le look de la prof de maternelle, tu sais. Fait que j'ai. C'est donc, on avait relevé des trucs comme ça à l'occasion. Là, ce qui se passe maintenant, c'est plus difficile maintenant, peut-être, pour les jeunes trentenaires, Parce que toute cette histoire-là, mettons, de bienveillance qui est rentrée un peu là-dedans, ça veut dire, bon, d'abord, est-ce que y a plus qu'une seule ethnie dans ton film? Est-ce qu'on fait attention au phénomène, ben, pas au phénomène, mais à la réalité homosexuelle? T'sais, je me dirais pas que c'est... Moi, j'ai pas eu à vivre ça trop, parce que j'ai déjà un parcours qui est suivi, qui est accepté, puis j'ai jamais été... dans la provocation, carrément. T'sais, Québec Montréal était un peu rough sur les relations hommes-femmes, mais tu sais, c'était très... En tout cas, à l'époque, c'était facilement acceptable. Donc maintenant, on me tape pas ses mains avec ces trucs-là encore, mais on m'en parle des fois. Mais tu sais, le dernier film, c'est en déroulé pratiquement plus que la moitié, au Moyen-Orient, puis tout le côté international, ouverture sur le monde, il est là. J'ai pas eu de... Mais tu sais, j'ai jamais vécu ce que Pierre Falardeau... J'aimais beaucoup écouter Pierre Falardeau, moi, quand j'ai commencé dans le milieu, tu sais, nous prévenait souvent, tu sais, qu'on radio cadenas, puis ça parle-là, tu sais, qu'on allait avoir une pression qui allait venir peut-être des gouvernements concernant notre contenu. Mais évidemment, lui, le contenu qu'il faisait portait bien plus à ça que ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de... Mais tu sens qu'il faut avoir des propositions, des fois. Ils vont te dire... Des fois, ça va être dans la structure, c'est... On pense que le début du film, on n'est pas sûr que c'est ça l'idéal. C'est un peu lent, blablabla. C'est long avant d'arriver à ton histoire. Mais je pense que j'ai bénéficié un peu d'un bon vote de confiance dans les dernières années, dans la mesure où, tu sais, si c'est mon histoire, je la connais. Fait que je suis plus difficile à obstiner autour d'une table quand ils vont dire ça, ben j'y revenais quand je vais faire. C'est vrai, ça s'est passé de même. Tu sais, je vais donner... Ce qu'il y a eu de nouveau dans mon dernier film, c'est qu'il y a eu une lecture. Puis ça, je pense que de la façon dont je vois ça, je pense, bon, on est dans l'époque où on est, et les gouvernements, ou du même les institutions comme justement Téléfilm, entre autres, pour ne pas la nommer, va demander, mettons, parce que dans mon dernier film, il y avait beaucoup de personnages arabes, égyptiens, en fait, qui étaient amenés dans le film. Donc, ils ont fait lire le scénario à ce que je considère être une personne de ce coin-là, je ne sais pas laquelle, ils ne sont pas tenus de me le dire, puis c'est pas grave. Mais j'ai eu un avis extérieur d'un lecteur extérieur, ça s'appelle. Ils s'organisent pour que tu saches que, gars, ça a été lu par un arabe, appelons ça comme ça pour l'instant, ou une arabe, je ne sais pas, qui a lu ton scénario, puis voici ce que ça lui fait. Tu comprends? C'est pour toutes les questions de sensibilité. Puis il y a eu des affaires qui n'avaient pas d'allure, tu sais, comme pourquoi on me posait des questions à savoir pourquoi le personnage de Yunis faisait ceci ou faisait cela, ça faisait peut-être pas une très bonne presse aux Arabes. Tu sais, mais moi, j'ai tout de suite pensé ça, je vais t'écouter, c'est une vraie histoire, là, vous commencerez pas à me faire... J'ai dit, de toute façon, ma réponse, c'est toujours la même, souvent. Celui qui a l'air le plus con dans mes films, c'est moi. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, je pense que je peux me permettre de rire des autres aussi. Mais tu sais, ça n'a jamais été plus loin que la vérité pour moi, fait que... Puis tu sais, Téléfilm, comprenez ça aussi. Téléfilm, il y a souvent, c'est du monde que je connais qui travaille là souvent, puis tout. Puis cette nouveauté-là, sont un peu pognés avec eux aussi. Tu comprends? C'est pas qu'elles sont levées un matin, ça me tenterait de rendre ça plus complet. C'est pas ça. Ils sont pognés avec ça, ils la présentent. C'est comme, écoute, on te présente ça, ça vient avec, c'est comme ça maintenant, sache-le. Puisque dans le cours, j'avais écrit pour un personnage, je sais pas, j'avais rajouté deux Japonais, ils ont deux scènes là-dedans, puis tout, puis je sais pas, j'ai raté ma shot, puis j'ai rien compris du Japon, puis il y en a deux qui lisent ça, puis ils font comme, buddy, là. Tu sais, ça serait pas dur pour toi, mettons. Monsieur Marceau, on te demanderait ton avis. Ça serait pas dur, en fait, du tout. On te demanderait ton avis, toi, sur deux personnages québécois dans un film français, là. Tu sais, des fois, on les caricaturise pas long, qu'ils nous font une joke de Poutine, puis tout. Exact. Ça aurait peut-être de quoi dire en une minute, tu comprends? Tu fais que, ben, je viens de là, que tu disais que ça, j'ai jamais dit ça, tu aurais le goût de leur dire ça. Là, maintenant, ce qu'ils voudraient en faire, est-ce qu'ils vont garder ton commentaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu comprends? Fait que c'est dans ce but-là, cette affaire-là. Mais je pense que c'est pour éviter aussi les trucs bien sensibles, religieux, souvent, puis tout. Fait que j'avais pas trop de titres dans le film. Là. Ça s'est pas complexifié. Moi, je suis quand même passé par là. Donc, peut-être que pour mon prochain film, encore avoir cette espèce de regard-là qu'il va falloir que je deal avec. Mais je pense que si tu défends ton point, tu sais, j'ai pas eu autour de moi de gens qui se sont fait rentrer de quoi dans la gorge parce qu'il manquait de diversité ou je sais pas quoi. Mais tu sais, oublie pas, mon nom, c'est un nom de diversité. C'est moi qui fais le film. J'ai toujours dit aux gens que je suis Québécois, je pense qu'on est en fait beaucoup où on habite, là, dans la mesure où, tu sais, je veux dire, ça fait 34 ans que tu habites au Congo, il y a des bonnes chances, tu vas être rendu relativement congolais, puis tu as une meilleure idée de comment que ça marche là-bas que moi, là, tu sais. Fait que, je pense que ça fonctionne comme ça, fait que... Je sais pas, tu sais, j'ai pas... En tout cas, pour l'instant, c'est encore jouable, puis J'écoutais justement, je ne sais plus quel podcast, il semblait dire que, tu sais, peut-être des restants ou des résidus du mouvement woke. Quand même, le mouvement woke, en ce moment, est en train de slacker un peu ou perdre des plumes. Fait qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un résidu de ça qui est dans le cinéma en ce moment puis qui va tranquillement partir peut-être. Mais j'ai jamais trop été inquiet. Peut-être qu'on pourrait trouver quelqu'un ensemble qui a passé par là plus rough puis qui aurait de quoi à dire de plus spectaculaire.
Mais pour l'instant. Je comprends, Ricardo Trogi, que tu as eu des parcours parfois du combattant là, pour réussir à avoir les financements et tout ça. Puis j'imagine que c'est la même chose pour tous les autres réalisateurs. Quand tu es connu, visiblement, les gens sont plus propices à te faire confiance. Mais là, je comprends que dans les dernières années, on veut plus de diversité culturelle dans les films et tout ça. Ces gens-là aussi sont des payeurs de taxes, donc ils ont le droit d'avoir une certaine représentation. Mais comme toi, c'est ton histoire, je pense au film que tu as fait sur ta vie qui se déroulait à Québec. T'sais, dans ce temps-là, quand il y avait un noir à Québec, là, on connaissait son prénom et on connaissait son nom de famille. Il n'y en avait pas beaucoup. Fait qu'il faut que ce soit représentatif de l'époque, aussi. Puis quand tu mentionnes que le mouvement woke est en train de perdre son air d'aller, ça, c'est une roue qui tourne. C'est la fameuse fenêtre d'Overton aussi qui se promène. T'sais, des fois, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Puis là, pouf! 5 ans plus tard, ça revient. Puis on peut jaser de ça. Puis il n'y a plus personne qui va en faire de cas. La vie, c'est ça. C'est une roue qui tourne, puis tu dois faire face à la musique. Tu disais que tu parlais d'un prochain film. Tu planches sur quoi ces temps-ci? Est-ce que tu as le droit d'en jaser?
Oui, mais je suis sûr, c'est 2-3 affaires. Je suis en train de chercher laquelle je vais encourager. Là, fait que les films des années 80, j'ai toujours une possibilité pour faire 98 peut-être, ou là, je suis en pub. Ouais. Donc, c'est un bon véhicule, ce film-là, pour montrer aux gens un peu c'est quoi le monde de la publicité. Ça serait celui des années 90, mais avant que les téléphones arrivent, je trouve ça plus fun. ce serait encore une comédie, je pense. Mais j'ai d'autres choses aussi sur... J'ai goût d'en faire de quoi avec des chums, une gang de gars. Tu vois ça? C'est exactement. En fait, je m'en allais te le donner en exemple tout à l'heure. Tu sais, là, je suis devant ça en ce moment. J'ai un scénario auquel je songe. Des 5 gars qui s'en vont en canot camping ou un truc comme ça. Puis je suis comme. Je vais-tu m'inventer un ami asiatique pour. Tu sais, je vais-tu l'avoir, cette discussion-là, avec eux si on me dit. Ouais. On dirait que c'est 5 blancs. Puis je suis comme, ça se peut que ça soit ça. 5 blancs, ça existe encore. Qui vont peut-être rencontrer X, Y, Z, on verra dans leur périple, mais tu sais, les propos de ce film-là seraient beaucoup autour de ce qui se passe en ce moment, justement, toute le nouvel ère dans lequel on patauge. Moi, je suis de génération X, on a connu d'autres choses, on connaît d'autres choses en ce moment, puis ça s'en va où, je sais pas. C'est juste les questionnements, parce qu'on n'est pas systématiquement tous en révolte. Comme quand je parle de ça, je parle pas juste de ma génération, je parle en fait de tout le monde. Tout le monde n'est pas frustré de ce qui se passe. Tout le monde... Il y a sûrement des affaires dans ce qui s'est passé dans les 10 dernières années qui font que tu es soulagé de certains personnages dans certains parties des fois. Il faut bien le dire, ça, c'est comme... Je n'ai pas toujours été à l'aise avec les commentaires qui se faisaient, mais ça ne disait juste pas de... Je ne suis pas à l'aise. Bon... Fait qu'une partie de ça qu'on va garder, fait que toutes ces affaires-là, voir qui se situe, je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ça, mais je sais juste pas si c'est un film qui peut survivre au temps que ça prend pour... si le film était prêt, je te le montrerai demain, tu serais peut-être curieux de voir ce que ça donne.
Ben oui.
Mais si je t'en parle aujourd'hui, dans mon char, puis que tu arrives avec ça dans 4 ans, tu vas peut-être... Ça aurait été le fun il y a 2 ans, là, on dirait qu'on était, tu comprends? Fait qu'il y a ça aussi qui est fragile. Je sais pas dans quoi je me lance si jamais je me pisse dans une affaire comme ça. C'est très contemporain.
Mais tu sembles beaucoup dans les questionnements. Je trouve ça intéressant.
Ouais.
T'as deux options, c'est la bonne nouvelle. Il y en a qui n'en ont pas pantoute. Toi, t'en as deux. L'idée d'un jour faire un Denis Villeneuve de toi, c'est-tu quelque chose auquel tu aspires? T'sais, j'écoutais en fin de semaine, j'écoutais son film Dune, là, que je trouve formidable. En même temps, c'est trop lent. C'est trop lent pour moi comme film d'action. Là, ce film d'action il y a, mais est-ce que toi, tu as des aspirations de faire le tour du monde avec tes films?
Non, pas vraiment. Je travaille pas en pensant à ça beaucoup parce que je l'aurais su déjà, je pense, si j'avais quelque chose qui voulait être récupéré ailleurs. Tu sais, je veux dire, c'est difficile au moment... D'abord, il faut comprendre une affaire. Tu sais, je connais pas de réalisateurs québécois qui ont eu... Tu sais, il y a Xavier Dolan qui met un peu d'humour dans ce qu'il fait. Mais euh, c'est, je pense que c'est plus envisageable quand t'es quelque chose dans le drame ou quelque chose où l'humour n'est pas là, qui est évacué, peut-être qui fait que, tu sais, les codes sont plus faciles, je pense, à recréer dans une autre langue. Je pense que de l'humour. De l'humour, c'est plus rough, tu sais. Même, on pourrait croire naïvement que, ben, écoute, essaye d'aller en France, peut-être qu'en fait, dans l'humour français, c'est d'autres choses aussi. Là. Ils ont pas. On se rejoint à plein d'endroits, mais il y a plein de places où c'est pas ça du tout. Puis, tu sais, ce que je réponds à ça souvent, c'est mon premier vrai désir dans la vie, c'était ultime, c'était d'écrire de quoi, de le tourner, puis ça marche, puis c'est arrivé quand, une couple de fois. Fait que je veux dire, faut que j'y pense des fois à ça, que je suis là, que je suis pas juste pas là-bas ou pas là-bas, tu comprends? Parce que c'est, ça serait bête. Tu sais, je dis, je peux me revoir en ce moment, là, vendeur de souliers ici chez Yellow, un peu en tabarnak de jamais avoir fait de cinéma, tu comprends? Puis disons que si j'étais rendu gérant, puis ça allait quand même pas se faire, je serais un peu frustré de pas avoir fait ce que j'ai fait. Là, je l'ai fait, faut que j'apprenne à l'apprécier aussi en même temps, là, tu sais. Puis là, je suis pas dans le, on se suffit d'un petit pain au Québec, c'est pas ça, là, Chris. Faire des films, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Je me suis pas suffi de, j'ai pas accepté un petit pain, c'est, je trouve que j'ai fait quelque chose de pas pire. Mais aussi, je vois bien qu'il y a une fenêtre pour la, ailleurs, puis toutes les, tu sais, les, j'ai peut-être un ou deux petits projets qui pourraient aller en anglais des fois, mais c'est pas mon premier réflexe. C'est ça qu'il faut que j'avoue. Là,
parce que 81, 87, 91, 95, ça pourrait être repris dans tous les pays du monde entier. Là. Ça, est-ce que tu as déjà eu des approches?
J'ai pensé faire peut-être de quoi en anglais pour la télé à partir de ces affaires-là. Mais déjà, j'ai su qu'il y avait un autre truc qui s'était fait il y a 4-5 ans au Canada, en anglais, ici, qui ressemblerait un peu. Fait que j'ai fait comme, bah, calique. Fait que, tu sais, je pèserais pas sur le piton plus qu'il faut. Vraiment, il faut que vous compreniez un truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont la chance d'avoir un public. C'est assez rare. Et ça, je l'ai, puis ça, je trouve ça vraiment. Comme un humoriste qui fonctionne bien, je trouve ça, Chris, c'est le fun là, de pouvoir faire ce que j'aime ici, puis d'être reconnu pour ce que je fais. Fait que je suis pas en manque de quelque chose. Je peux songer des fois, genre, ce serait peut-être la fin. Puis je pense que les salaires aux États-Unis sont sûrement très intéressants, mais je suis pas à plaindre. Fait que, tu sais, c'est dur pour moi de me prendre en pitié le matin à cause de ça.
Ouais, je pense pas que personne te prenne en pitié, là, mais moi, les films sur ta vie, ta jeunesse dans le secteur de Québec, j'ai adoré, je les ai consommés. On n'a pas une grosse différence d'âge. Fait que les endroits, tu sais, ces endroits-là me parlent. Ta gang de chums, ben, j'avais des chums qui leur ressemblaient. Ma vie n'était pas pareille comme la tienne, bien entendu, mais on se retrouve. La nostalgie, ça fait énormément vendre. Est-ce que c'est typique au peuple québécois, ça, ou les Français pourraient triper sur la nostalgie? Un New-Yorkais pourrait triper sur la nostalgie des années 80-90?
Oui, je pense que tout le monde a ce germe-là en eux, c'est sûr, c'est sûr. Mais là où c'est vraiment drôle, c'est que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'abonnés, mettons, Instagram, qui sont du monde de 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Il y a beaucoup de parents qui font voir mes films à leurs kids. Je te dirais que 87, là, je reçois souvent des photos d'ados qui vont à Québec. Donc, pas seulement de Québec, mais tu sais, des Montréalais s'en vont là pour le week-end, puis se prennent en face du parmesan, puis m'envoient la photo. Parce que ça les fait rire, eux autres, de voir la vraie place. Puis, ça existe, c'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, fait que j'ai beaucoup de ça, puis je réponds à ce genre-là, j'y trouve vraiment, tu sais, c'est sympathique au bout de m'envoyer ça, tu sais. Mais ça, c'est plus de la nostalgie, c'est du monde qui ont l'âge des personnages, qui écoutent ça, puis qui ont du fun. Puis ça, c'est le fun, comme. Tu sais, c'est quand même des. C'est des thèmes qui sont récurrents, hein, tu sais, perdre sa virginité, la première job, ses premiers chums, faire les premières niaiseries. Fait que, tu sais, je suis pas surpris que ça fonctionne, mais j'étais quand même surpris du nombre de jeunes à qui je pensais pas parler au début, tu sais, qui se sont manifestés par la suite. Tu te calais que ça, c'est une bonne affaire. Là,
tu parlais du parmesan, il est encore ouvert, le parmesan. Là,
Y a-tu
des propriétaires d'entreprises qui ont dit hey, merci de m'avoir mis dans ton film parce que j'ai des touristes qui viennent chez nous? Nous autres, à Québec, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y avait une série coréenne qui virait, puis
ils ont entendu parler de ça.
La porte rouge, puis là, à un moment donné, on voyait des Coréens se prendre en photo à côté d'une porte rouge, puis on se demandait c'était quoi jusqu'à temps qu'on comprenne qu'il y avait une série coréenne, puis les Coréens tripaient sur cette porte rouge-là. Là.
Mais y a-tu quelqu'un qui a fait une petite enquête sur cette histoire-là, justement, parce que moi aussi, quand je suis allé à Québec, mais ça fait plus que 2 ans, je pense. Il était là en train de tourner, là. Tu sais, ça avait l'air romantique.
Ah oui?
Pesant, là. Ça avait l'air. Ça a l'air d'un genre de télésérie bien fleur. En tout cas, puis je me dis, c'est qui le premier Coréen qui est débarqué? Tu un gars qui est venu en voyage en Réal ou un scénariste qui a fait cette ville-là est magnifique? Faut en faire une toile de fond pour une de nos histoires, parce qu'écoute, là, c'est quand même... T'es pas à côté, non? Je sais. Tout le tourisme qui a découlé de ça, c'est quand même le fun.
C'est quand même la porte de secours du petit théâtre Petit Champlain, là.
Oui. Ah, wow, OK!
Il y a des gens qui font le tour du monde pour se faire prendre en photo là. Quand le film avec Tom Hanks puis Leonardo DiCaprio est sorti, Catch Me If You Can, je veux dire, les gens qui ont vu ces images-là, les images tournées à Québec sont de toute beauté. Tu sais, ça l'a attiré.
Oh yes.
Même moi, qui viens de Québec, quand je suis allé là, je dis « OK, c'est là que Tom Hanks était. » Puis ils sont rentrés à tel endroit ensemble. Puis la petite chapelle, il n'y a rien de plus beau que cette petite chapelle-là.
Oui, mais je pense qu'ils l'ont bien éclairé. Mais déjà, à base, Place Royale, c'est vraiment bien éclairé à base. Oui. C'est quand même un bijou de la ville, là. Mais je pense qu'ils prétendent être en Normandie, hein, dans le film, quand ils sont rendus là. Ou en quelque... Je sais que c'est en France, mais je ne sais plus quel coin. Mais...
C'est possible.
Enfin, ça ressemble.
Il y avait un autre film aussi avec Angelina Jolie, Taking Lives, qui a été tourné à Québec. Et il y a des gens qui ont assisté. Ils ont été sur le pont de Québec pour se prendre en photo, pour montrer l'endroit où le véhicule avait explosé. Alors que dans ce film-là, on disait être à Montréal, mais c'était des images qui étaient de Québec. Fait, dans ton cas, à toi, y a-tu des hommes d'affaires qui t'ont dit « Merci, Ricardo, tu m'as mis dans ton film et j'ai du tourisme grâce à toi. »
Non, mais je sais qu'au Parmesan, on a fait faire, on a fait un petit lancement, là, puis après, on a amené l'affiche du film et tout, parce que là, je sais que les gens, ils vont souvent.
Dagobert,
j'ai... Ah, bon Dieu, oui, c'est vrai, le Dagobert. Sauf que là, Dagobert ayant un horaire tellement atypique, et étant dans l'époque où on est, le monde ne sort plus vraiment, là, j'ai cru comprendre... Moi, je suis encore sous le choc. Écoute, je suis parti il y a trop longtemps, mais moi, que la Grande Allée soit vidée, puis que, bon, ça soit allé sur Saint-Joseph, que là, même Saint-Joseph, puis il y a encore du monde qui vont là, mais la Grande Allée, ça soit vidée, moi, je suis encore à me poser des questions là-dessus. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas sur cette rue-là? Pour que, mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus de désir de sortir puis d'aller se voir la face.
Mais il y a Montréal qui est encore très attrayante au niveau des boîtes de nuit, là, mais à Québec, tu as raison, c'est plus pépère un peu. Pour les gars de 50 ans, là, on va sur la Grande Allée se promener, on va manger sur la terrasse, on prend une bière, mais à minuit, 1h du matin, il ne reste plus un chat là.
Mais si, mais moi, je te parle, le monde de 22, ils sont où? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit deuil à faire que j'accepte mal.
Ricardo Troggi, on va faire une courte pause si tu le veux bien. Je vous rappelle qu'on est avec le réalisateur Ricardo Troggi. On placote avec lui, on prend le temps de le jaser. Je sais qu'il est dans sa voiture présentement. Il nous laisse la chance d'avoir une entrevue avec lui. Ça fait 3 entrevues que je fais avec lui dans sa voiture. Moi, d'après moi, il n'y a plus de logement, il n'y a plus de condo, il n'y a plus de maison. Ricardo Troggi, il habite dans son véhicule. Lâche pas, Ricardo, on est avec toi, là.
Lâche pas, merci.
On fait une pause, on revient.
Marceau, le soir. Le soir. Le 28 août. 16h. 102.1. Soyez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour tout savoir de notre nouvelle programmation.
Oh my God, I can't believe it.
L'automne ne sera pas de tourpeau. Le 28 août.
A 1, a 2, a 3.
16h.
All right, ready?
Boulevard 102.1.
Du 4 au 7 septembre, Saint-Roch XP s'empare de la rue Saint-Joseph-Est. Plus de 100 spectacles gratuits d'artistes à découvrir dans des lieux inusités. De la bouffe de rue, une galerie d'art et plus encore. Et ça se passe aussi à l'Impérial Belle et au Grizzly Fuzz avec la série Ubisoft. Fred Fortin, Jay Scott, Elissa P, Jérôme 50, Alphonse Bisaillon et bien d'autres t'y attendent. Programmation complète au saintrochxp.com. Saint-Roch XP est présenté par SiriusXM.
Ici PA Méthode pour Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan. Êtes-vous du genre que ça vous prend vraiment une bonne occasion pour changer d'auto? Écoutez bien l'annonce, ça se pourrait que ça fasse votre journée.
Et comment? C'est le retour du 0% ce mois-ci chez Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan. Le Rogue, classé numéro 1 des VUS compacts par Motor Trend pour une troisième année de suite, est offert en financement sur 48 mois à 0%. Oui, 0%. On vous attend chez Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan.
Profitez dès maintenant du plus gros surplus d'inventaire de Tanguay l'entrepôt, où les rabais vont jusqu'à 70 %. Comme ce démonstrateur d'une valeur de 900 $ qui est maintenant offert à...
Combien? 800, mettons?
Moins que ça.
750 $
Moins que ça.
700.
650.
Qui dit moins?
Ben là, 500.
Exactement.
J'achète.
Vendu! Tanguay l'entrepôt. Gros surplus d'inventaire, gros rabais, ça vaut le coup. Certaines conditions s'appliquent.
Découvrez l'énergie et la discipline avec l'Association régionale de taekwondo de la Capitale-Nationale. Défiez vos limites, gagnez en confiance et rejoignez une communauté passionnée dans les clubs de la région de Québec. Enfants, ados, adultes, le taekwondo, c'est pour tous. Détails au artcn.ca.
Sur les routes du Québec, pour chaque arrêt, il y a un village relais. Il y a Saint-Émilie d'Énergie pour recharger vos batteries. Ou la Guadeloupe pour un bain de soleil. Ou un bain tout court. Pour les petits creux, prenez une bouchée à Lac Bouchette. Et avant d'arriver à bon port, pose toilette à Port-Cartier. Pour le plein d'essence et d'amour, tu stops à Sacré-Cœur. Et en cas de mauvais temps, passez une belle longue nuit à Mont-Joli. Les villages relais du Québec, toujours une bonne raison de prendre une pause. Un message du gouvernement du Québec.
Chaque jour, vous utilisez des objets alimentés par le lithium.
Mais saviez-vous que leurs batteries peuvent s'enflammer?
Protégez-vous et votre famille avec Hero 911, le seul extincteur conçu pour les piles au lithium.
En avez-vous un?
Disponible en magasin et en ligne sur hero911.com.
Du 11 au 13 septembre, profite des derniers rayons de l'été au Festival Phono. Musique, jeux, food truck, zone détente, tout pour passer du bon temps.
Cette année, t'en as plus pour ton argent.
Une journée supplémentaire, plus de spectacles et une nouvelle scène. Galantis,
Charlotte Cardin,
Charlie Puth,
Alex Warren
et une cinquantaine d'autres artistes seront là pour faire lever le party. Achète ta passe maintenant. Festival Phono, présenté par Beneva en collaboration avec RBC.
Jour 12, toujours aucun Wi-Fi. Je pensais avoir entendu un bip. Mais c'était mon micro-ondes. Jour 47, enfin une barre! Mais c'était une barre tendre.
T'as pas à vivre une épopée pour trouver un bon Wi-Fi. L'Internet fibre 500 Mbps par seconde à 50$ par mois. De e-box, ça te prend ça.
Après ma séparation, je me suis endettée sans trop m'en apercevoir. Mes dépenses étaient les mêmes, mais j'étais maintenant seule pour payer celles de toute la famille. Heureusement, j'ai pris rendez-vous chez Roy Métivier Roberge.
Roy Métivier Roberge peut vous aider à vous libérer de vos dettes avec des paiements mensuels sans intérêt selon votre budget. La majorité des clients sortent de l'endettement sans faire faillite. Avec eux, c'est vous avant tout. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. rmrsyndic.com.
Connaissez-vous 1-800-GOT-JUNK?
Nous sommes une entreprise de ramassage d'objets encombrants, clé en main.
Et on se déplace quand ça vous convient.
Pas quand ça nous arrange.
Oh que non!
Dès que vous nous appelez, on arrive à votre porte avec notre camion étincelant.
Et nos uniformes tout propres.
Et dans la plupart des cas, on passe le jour même.
Bye-bye cochonnerie, bye-bye les vieilles affaires.
Suffit de pointer.
Et on s'en occupe.
Débarrassez-vous de votre junk.
Appelez 1-800-GOT-JUNK.
Ou visitez 1-800-GOT-JUNK.com.
C'est la vente VIP chez Mercedes-Benz de Québec du 25 au 26 août. Profitez des liquidations sur nos démonstrateurs 2025, CLA 250 à partir de 650 $ plus taxes par mois et GLB 250 à partir de 699 plus taxes par mois. Le tout à 1,99% en location 48 mois, incluant le rabais loyauté. Et dès septembre, soyez parmi les premiers à conduire le GLC 350E 2026. Réservez le vôtre dès aujourd'hui chez Mercedes-Benz de Québec, l'étoile de Québec.
102, la radio rock de la vieille capitale.
Ça, c'est
BLVD.
Boulevard 102-1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102-1. Ricardo Trogi est avec nous ce soir. On placote avec lui en direct de son véhicule. Bon, là, tu nous as parlé que tu avais deux options de films présentement. Comment est ta vie, toi, présentement? Cet été, là, ton été, tu l'as pris comment? Ton été, as-tu travaillé un peu? T'es-tu en période d'écriture?
C'est un mélange. En fait, là, je viens de terminer deux mois de tournage sur la série La Caïnou. C'est saison 3, donc c'est une série qui était à Radio-Canada. Qui raconte l'histoire d'un couple issu. Un couple de. Un peu comme je suis italien, un couple d'Haïtiens, c'est-à-dire ils sont nés ici, de parents haïtiens, mais et toute la famille qui va autour de ça. Donc c'est un genre de plongeon dans la communauté haïtienne, si on veut, montréalaise, du moins. C'est ça, on raconte l'histoire d'une famille comme ça. Donc moi, je suis là-dessus depuis 3 ans l'été. Parallèlement, c'est sûr que j'écris quand même, je nourris mes scénarios le plus que je peux. Je me suis aussi un petit peu Enfin, j'ai hâte d'aller voir la première de Québec-Montréal. Je vais à Québec pour le voir pour la première fois, parce que j'ai refusé de voir quoi que ce soit avant.
Ah oui?
D'être... Mais je voulais leur laisser le temps de... Je voulais pas me faire dire, on commence, on est encore nerveux, puis tout de suite, après une quinzaine de représentations, ils vont être à leur top. Puis on vient à Québec, donc moi, Patrice Robitaille, puis Jean-Philippe Pilsen, les trois auteurs du film, si tu veux, pour voir ça live. Puis on va sûrement aller à la première de Montréal la semaine d'après aussi. Mais comme le film Québec-Montréal, à l'époque, on avait une première à Québec avant celle de Montréal. Fait que voilà.
Est-ce que tu entends parler encore du bye-bye? C'est-tu quelque chose que tu aimerais faire un jour, le fameux bye-bye? Là? Simon-Olivier Fecteau est parti, j'imagine.
Oui, là, ben là, ils ont mis 4 nouveaux réalisateurs pour le faire cette année. C'est en collaboration, en co-réalisation, ils vont faire ça. S'ils reviennent avec la co-réalisation pour faire 2-3 sketchs, ça pourrait m'intéresser. Mais comme je dis souvent, le truc un peu absurde là-dedans, là, ma fille est plus vieille, mais c'est parce que longtemps, moi, mes semaines de vacances assurées ont toujours été celles du temps des fêtes. Et quand tu fais le bye-bye, il faut que tu restes stand-by parce que ça se peut qu'il y ait un nouvel événement dans l'actualité qui fasse que tu es obligé d'aller retourner en montage, tu sais, des trucs comme ça. Puis ça, j'étais pas game avec un enfant jeune de compromettre ce moment-là de l'année. Je trouvais ça trop. Tu sais, d'autant plus que je travaillais déjà pas mal. Là. Ça fait que c'était pas. Le défi aussi ou le challenge a peut-être changé. Moi-même, je suis plus devant la TV. Ben, je suis comme tout le monde. Je suis plus devant la TV avec un Gérald en train de faire le tour des postes. Là, t'sais. J'écoute la télé, ce qui m'intéresse quand je veux. Donc, moi, les parodies qui me viennent naturellement, en ce moment, c'est plus des parodies. Comme je vois des fois, ça serait plus des parodies de ce que je peux voir sur Instagram.
Ouais.
Des reels qui ont été célèbres ou je sais pas quoi. C'est plus vraiment cinquième rang ou je sais pas quelle émission que j'ai peut-être moins vu. Fait que je trouve qu'on a une drôle de position en ce moment pour faire ça, je sais pas.
Mais des fois, il y a des publicités qui sortent de l'ordinaire. Des fois, il y a des films qui sortent de l'ordinaire, des téléséries. T'es-tu capable d'être méchant? Parce que les bye-bye ont été régulièrement méchants année après année avec des victimes. Là. Pensons à Guillaume le Métivierge. Lui, il a mangé une méchante varlope. On parlait de Simon-Olivier Fecteau. Il a fait une mauvaise blague dans les derniers mois. Je ne sais pas si les prochains réalisateurs du bye-bye vont mettre la mauvaise blague de Simon-Olivier Fecteau. Mais t'es-tu capable d'être méchant? Est-ce qu'il va être méchant?
Je le sais pas. C'est une bonne question. Je me suis jamais attaqué à des gens directement. Et pour être honnête, mon premier réflexe, ça serait de dire non. J'ai pas envie de gérer l'après, là, si jamais ça va pas bien. Mais tu sais, mettons... ben là, ça, c'est facile. Peut-être tu nous diras, mais c'est quand même ça qui me vient. Tu sais, comme tout le monde là, en ce moment, quand tu lis le bordel avec sa clique, là, j'ai fait taille ça. C'est un petit peu. Je sais pas à quel moment, en tant que responsable, pour que tu lèves ta main dans la vie, tu penses que 342 millions de plus, c'est peut-être trop. Je sais pas. Pour chialer contre les politiciens, ou du moins même là, dans ce cas-ci, c'est peut-être plus. C'est facile de varger ces politiciens. Moi, c'est l'étage en dessous qui m'intéresse. Tu sais, c'est ces nouveaux noms qu'on entend de hauts fonctionnaires. Tout, c'est comme calvaire, eux autres, ils vont sortir de là, on se souviendra plus d'eux autres. Ça, je trouve ça un petit peu plus choquant de savoir que des gens qui sont pas à leur place, sont pas compétents, puis qu'il y a des trucs comme ça qui arrivent, ça m'inquiète plus.
Donc, ce que je comprends, c'est qu'avec eux autres au bye-bye, t'es manquerais pas, là.
C'est parce que les gens ne les connaissent pas. Fait qu'ils vont varger sur Mme Guilbeault, sur M. le Premier ministre, tu comprends? Mais moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui ont fait plus de niaiseries en dessous, tu comprends, mais qui ne sont pas connus. C'est pas mal sûr de ma shot là-dessus. Et on n'en rira peut-être pas parce que justement, ils ne sont pas connus, tu comprends, mais qu'est-ce qu'ils diraient? Je ne sais pas, j'ai l'impression que à cet étage-là, il y a de l'incompétence qui passe vite sur le tapis, j'ai l'impression.
Ouais. Mais c'est ça, le bye-bye, il faut que tu sois capable d'être méchant une fois de temps en temps, puis souvent d'être conscient que ça se peut que tu mettes fin à des carrières là, ou que tu fasses perdre des contrats parce que tu as pesé peut-être un peu trop sur le gaz pour faire rire le Québec dans son entier. Tu as parlé de tes vacances, tu as parlé de ta fille. Ta fille, elle suit tes traces de ce qu'on comprend, hein?
Oui, bien, elle se dirige vers le même milieu. Je te dirais maintenant de savoir qu'est-ce qu'elle va en faire exactement, c'est dur à dire. Ouais. Dans ce qui ressemble à ma job, pour ceux qui ne savent peut-être pas, il y a monteur aussi, c'est-à-dire celui qui ramasse les images puis qui il prend ce casse-tête-là puis il fait le film avec, évidemment en suivant le scénario, mais je veux dire qu'il va, tu peux monter un film vraiment différemment, comme tu peux monter une capsule de 2 minutes différemment. Fait qu'imaginez, mettez ça sur 2 heures, ça peut vraiment prendre d'autres tournures. Fait que c'est une job intéressante. De la production, ça peut être intéressant aussi, s'occuper du son, juste de l'image. La caméra, tu fais qu'il y a plein de trucs. Je sais qu'elle s'en va vers là, mais pour te dire tout de suite, là, elle a 18 ans, donc il est tôt un peu pour savoir où tout ça va finir.
Est-ce que est-ce qu'elle t'a déjà parlé de son nom de famille? Entrer au cégep avec ton nom de famille, ben, nécessairement, les gens vont faire l'association. En plus, ça va être en cinéma. Est-ce qu'elle a peur que ça puisse lui nuire ou l'aider? Tu sais, pas nécessairement
exact,
la reconnaître.
Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Elle m'a demandé il y a un an et demi si elle pouvait changer de nom de famille. Je vous dirais que, en tant que parent, ça peut, si ça vous arrive, ça va vous faire de la peine pendant 4-5 secondes.
Je comprends, donc. Oui.
C'est des domaines rough, ça. Ouais. Puis j'ai juste avalé la pilule. Je dis, bien, écoute, si tu penses que ceux-là peuvent t'aider, c'est parce que la vérité aussi, Yannick, c'est que je savais que ma fille, si elle voulait faire ça, allait se heurter à une bureaucratie qui n'est pas simple et que j'avais pas besoin de m'en mêler, que ça allait sûrement arrêter d'y tenter après 2-3 étapes, et c'est ce qui est arrivé. Donc, elle a oublié le projet, mais je sais que ça peut être un petit peu lourd si tu étudies en cinéma au cégep, de faire abstraction de son nom, parce que le prof, tout le monde sait c'est qui, fait que... À date, so far, ce qu'elle me disait, c'est que souvent, quand ils font des travaux d'équipe, le monde va vite être avec elle parce qu'ils ont l'impression que ça va aller mieux. Là, puis ça l'énerve un peu. Fait que là, elle va lâcher le cinéma proprement dit pour continuer à étudier dans une histoire. Puis elle va peut-être finir en cinéma là, à l'université. Mais comme j'ai déjà dit à des gens, étudier le cinéma, c'est une chose, mais c'est pas ça que tu as besoin nécessairement pour devenir scénariste puis de faire des affaires. Là. C'est pas... Le cinéma, c'est le véhicule, puis tu peux apprendre à embarquer dedans un peu plus tard, c'est pas très grave. Mais... si t'as pas le jargon de tout ça avant 25 ans, là, c'est pas...
Mais elle semble consciente de tout ça. T'sais. Elle a le nom Troji, puis elle sait très bien que ça veut faire du cinéma. Ben, elle va devoir répondre toujours à des questions. Le fait qu'elle veut changer de nom, c'est anecdotique. Mais quand tu te fais dire ça par ta fille ou ton gars, ça doit frapper un peu. Mais je trouve ça intéressant parce que ces enfants-là veulent leur indépendance. Puis ils veulent réussir parce qu'eux autres méritent de réussir et non pas parce que la mère ou le père est capable de lui ouvrir la trail. Là. Si tu peux faciliter son ascension, ben garde, ce sera ça. Mais
je pense que tous tes parents, même toi, si tes enfants dans 20 ans veulent faire de la radio ou dans 10 ans, puis ils t'en parlent, la seule chose que tu peux faire, c'est leur faire trouver un premier meeting plus facilement. Ouais. Mais le deuxième, il va falloir qu'ils s'organisent seuls, là, tu sais. À quelque part, je suis comme, écoute, tu veux faire ça, oui, ils vont pouvoir faire rencontrer quelqu'un, mais tu sais, c'est tellement un milieu où si t'es pas compétent. Oui, tu vas être là 5 minutes, là, tu sais, c'est pas compliqué. Là.
Puis ton désir à toi de faire de la réalisation, bon, on t'a vu dans la course Destination Monde, mais ça remontait à très loin?
Secondaire 4-5 à peu près, quand j'ai été pogné dans une pièce de théâtre où je jouais une adaptation de Roméo et Juliette où on m'avait dit « Tu vas faire Roméo » parce que dans la classe, je sais pas si tu te souviens, mais ceux qui ont fait de l'art dramatique au secondaire dans les années 80, je te dirais que dans un groupe de 15, il y avait un ou deux gars puis pas mal de filles.
Exact.
Fait que c'était ça aussi ma réalité. Donc, je me souviens qu'on était deux gars dans la classe puis que, bon, la fille qui allait jouer Juliette avait décidé que ça allait être moi. Elle voulait rien savoir de l'autre. Fait que j'étais un peu catapulté là-dedans. Et je me souviens du sentiment d'abord d'apprendre des phrases que dans ma tête, je dirais jamais ça comme ça, évidemment. Il y avait une petite propension à la poésie dans le texte et tout. Mais j'avais l'impression d'être pogné dans une affaire, j'ai dit là, c'est pas moi qui contrôle. Je suis comme captif dans un truc, c'est dégueulasse, plus jamais ça va m'arriver. Puis je me souviens juste de regarder mon prof qui était assis dans la salle, puis qui me disait un peu quoi faire, qui nous dirigeait. Puis j'étais comme ça a l'air d'une job pas mal plus fun que celle que j'étais en train de faire. Puis ça m'a relativement. En fait, ça m'a suffisamment marqué pour qu'en allant venir, je me souviens constamment de ça. Puis j'ai dit non, moi, c'est pour que je sois à l'arrière de la caméra, ou du moins, il faut que je contrôle le show. Ou au moins être à la place où j'ai le goût d'être puis pas me sentir piégé dans une position qui me tente pas du tout. Fait que voilà.
Mais t'as fait un peu le métier d'acteur, là. Je veux dire, veux
pas. Oui, mais il faut que tu saches jouer un petit peu quand tu es réalisateur. Il y en a qui sont pas du tout capables, mais je pense que quand. Tu sais, moi, je fais beaucoup de direction d'acteur, je suis dans l'humour. C'est le fun des fois d'être capable de leur proposer de quoi. Puis ça, tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas tout le monde qui l'a, mais je pense que ça... Tu sais, je suis capable de jouer 4-5 minutes, mais c'est vraiment pas mon grand trip. Ça, je trouve ça vraiment moins le fun que ce que je fais.
Puis est-ce que tu es plus dur à ton égard quand tu joues le rôle d'acteur que le réalisateur lui-même qui dit « ben non, ça a bien été ». Toi, est-ce que tu t'en demandes plus parce que justement tu connais le métier?
Non, parce que j'ai pas été assez confronté à ça. J'ai pas été mis en situation où j'allais avoir un premier rôle, mettons, pendant 20 jours, puis commencer à... Tu sais, c'est des petites affaires ponctuelles que j'avais. Fait que, tu sais, je rentrais là pour 8 répliques. Fait que je faisais pas de grand... De grosses réflexions autour de ça. Là. C'est pas, ça m'intéresse pas assez pour ça. Là,
mais la bonne nouvelle, c'est que si au Québec, on décide de refaire Roméo et Juliette au cinéma, c'est pas toi qu'on va prendre. Là, c'est...
je vais peut-être aller à l'audition, là, juste voir si c'est ça.
Ça dépend du casting, là, mais Roméo, pas de cheveux, on n'a jamais vu
ouais,
ça.
Ouais. Avec, tu peux le dire avec 20 livres de trop aussi. Ouais. Hey, Roméo, c'est...
T'es-tu un gars qui fait de la planification sur plusieurs années, tu sais, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans?
Ouais, je suis obligé de regarder un petit peu les 5 ans qui viennent tout le temps parce que c'est tellement long à développer ce qu'on fait. Fait que t'as pas le choix, ben, là, c'est. Ne serait-ce qu'au moins. Je sais pas. Je regarde une fenêtre d'à peu près 3 ans, disons. C'est ce que je fais idéalement parce que sinon. Tu peux te ramasser vraiment le bec à l'eau. Il faut que tu penses à ton affaire un peu à long terme. Puis souvent, t'es bien dans le jus au moment où il faut que tu commences à penser à tes prochaines affaires, puis ça tombe pas bien, mais il faut le faire pareil. Sinon,
Mais j'ai des chums qui virent à Montréal en tant qu'acteurs. Des fois, ils font du modeling aussi. C'est des modèles. Mais eux autres là, sont constamment au day-to-day, puis ils se cherchent constamment de l'emploi. Ça a l'air extrêmement complexe. Puis si tu veux une maison, si tu veux avoir une conjointe, tu dois faire de la planification. C'est pas toujours évident. Des fois, les gars sont obligés de cumuler le métier d'acteur, faire du modeling un peu, mais aller travailler comme serveur d'un restaurant ou aller faire un petit job comme menuisier à quelque part d'autre. T'en as-tu beaucoup des acteurs comme ça dans ton entourage qui se disent « Tabarouette, je sais pas où est-ce que je vais être dans 6 mois? » Ça doit être compliqué. Ça doit être frustrant aussi.
Vous seriez surpris de voir à quel point même les acteurs établis, des fois, que ça fait 12 ans que je voyais à télé, c'est juste qu'ils pognent un trou d'un an ou deux. Ça peut foutre en l'air toute leur planification budgétaire et tout. Et certains d'entre eux vont peut-être être obligés justement des fois d'aller faire d'autres trucs. Mais là, je veux dire, même moi, ça peut m'arriver. Donc, tu sais, je veux dire, comme je vous dis, je peux pogner un trou. À mon année, il y a un an, je fais rien, mais c'est un peu différent dans mon année que versus les années où je fais 3 contrats importants. OK, faut prévoir ça. Je pense plus de me faire avoir dans un affaire de même, mais ça m'est déjà arrivé, moi, 2 fois dans ma carrière. Enfin, hey, Chris, j'ai mal calculé mes affaires, j'aurais dû être plus prudent, je sais pas quoi, tu sais. Mais tu apprends avec le temps, à un moment donné, puis tu te prépares des plans B, puis tu te fais un coussin qui a de l'allure, parce que sinon, on est tous guettés par ça. C'est comme j'ai oublié que j'avais ce stress-là dans la vie des fois que j'étais au contrat.
Ouais.
Plus que bien du monde. Je suis au contrat, mais vraiment systématiquement. Là, j'ai rien, jamais signé pour l'année d'après. T'sais, fait que c'est quand même exceptionnel. Mais tu finis par t'habituer et de te faire un mode de vie comme ça. Mais ça, quand j'ai un trou qui se prépare ou quand je travaille un peu moins, ce sentiment-là remonte. C'est comme my God. Mais je veux dire, en fait, l'UDA au complet est comme ça, c'est pas compliqué. Là. Mm. Tout ce que vous voyez à télé, tout le monde est au contrat et tout le monde peut avoir donné un trou avec lequel il faut composer. Mais je pense plus tellement à ça. Je compte sur toute mon expérience et ce que j'ai installé à date pour ne pas avoir à vivre ça. Mais en fait, là, mon prochain défi, c'est... là, j'ai 55. Là, je vais vieillir. Là. Là, comment que ça se passe pour un réalisateur, réalisatrice plus vieux? Je vais le voir tranquillement se pointer le nez. Puis je vous en parlerai plus dans 5 ans, mais... Pour l'instant, ça va encore. Là.
Est-ce que les gens sont capables de différencier les amitiés avec le professionnel quand ils vont voir, quand ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas eu de contrat puis ils savent que tu travailles sur quelque chose, sont-tu prêts à te dire hey, Ricardo, j'aurais besoin de quelque chose? Là. Tu trouves-tu ça dur? Ça t'arrive-tu? Puis si ça t'arrive, est-ce que tu trouves ça dur des fois de leur dire écoute, soit que j'ai rien ou soit que j'ai rien pour toi? Là. Ça doit être tough. Là.
Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais c'est peut-être pas tes amis les plus proches qui vont te demander ça. C'est peut-être des fois des connaissances justement qui. Steve un matin qu'ils sont angoissés parce qu'ils s'en viennent, puis ils vont rejoindre quelques réalisateurs, réalisatrices qu'ils connaissent pour leur dire écoutez, moi je suis disponible. Ça m'est arrivé, écoute, c'est parce que c'est pas compliqué, c'est un peu mathématique cette affaire-là. Faut que la personne se manifeste à un moment donné où j'étais. Tu m'appelles pour quelque chose, tu es un gars de 42 puis je suis en train de faire un show avec du monde de 23, les chances sont assez minces que je te trouve. Comprends-tu? C'est pas comme un. je rentre pas une shop, là, tu sais, j'ai pas toujours un trou à combler qui peut être fait par n'importe qui. C'est des postes bien précis pour des gens de certain âge. Fait que, tu sais, je peux pas offrir grand-chose de même. Si c'est rare, je peux dépanner quelqu'un. Je peux le faire, mais c'est très occasionnel, là, tu sais. Mais effectivement, tu sais, les gens essayent de se parler un petit peu dans le milieu, à savoir, tu sais, si t'as quelque chose pour moi, j'aimerais bien ça, puis... Je vais te parler d'un phénomène, mettons, dans une société, particulièrement ici, probablement, enfin, assurément au Québec, peut-être dans d'autres endroits à peu près gros comme ça ici, mais on a un phénomène de deuxième rôle difficile à trouver. Je te donne un exemple. Mettons, je suis en train de tourner une scène. J'ai un couple. Qui vont chicaner avec un serveur. Okay? Je suis dans un restaurant. Bon, le couple, c'est mes deux premiers rôles. Puis tout le serveur, il vient là, lui, pour une journée. Ce serveur-là a 12 répliques. Donc, c'est un deuxième rôle, mettons. Ou peut-être même un premier rôle, mais il vient là juste pour 12 répliques. Et ce genre de contrat-là est difficile à trouver parce que j'ai besoin d'un gars comique, mettons, pour que la chicane punk soit bonne. Mais j'ai pas personne qui fait des gros leads habituellement qui vont prendre ça parce que c'est vu comme un peu un rôle secondaire.
Okay.
Mais j'aurais besoin d'un talent de ce niveau-là. Et il y en a, je peux te garantir qu'il y en a là-dedans qui vont refuser l'offre du personnage, mais qui devraient apprendre parce que financièrement, ça les aiderait.
Ben oui.
Mais qui vont refuser juste pour garder leur image intacte. Et ça, c'est une des options. Tu fais ça si t'étais à Hollywood et t'as fait 2 ans de premier rôle, t'as déjà 4 millions en banque sur une affaire, puis tu refuses un deuxième rôle. Mais ici, c'est pas ça notre réalité financière, puis ils vont quand même refuser. Tu sais, je peux pas te donner de nom, mais j'ai parlé à des gros premiers rôles, des fois, qui disent non, je peux pas aller faire un deuxième rôle, même si c'est relativement payant, parce que ça va donner une mauvaise image de moi, puis ils vont se priver de ça. Ils vont s'en priver jusqu'à temps que ça n'a plus d'allure, puis là, des fois, tu vas y voir dans une affaire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben c'est ça. Là, c'est le bout où il n'y a plus d'allure.
Oui.
Ouais. Fait que, tu sais, c'est particulier, mais je suis souvent à recherche de bons deuxième rôles, puis on n'en a pas beaucoup à cause de ça.
Ricardo Troggi, c'est toujours un plaisir. Un gros merci pour l'entrevue de ce soir, puis ben, on se dit à la prochaine. Continue de faire ce que tu fais. On t'adore.
Ben, merci, monsieur Marceau. Puis, rappelez-vous quand vous voulez.
Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir. Le soir.
Si vous aussi avez envie d'apporter un peu de douceur dans la vie d'un enfant atteint de cancer, Boulevard vous invite à la première édition à Québec du Défi des chefs Le Camp présenté par Steamatic. Le 25 septembre, au Manège militaire Voltigeur, vivez une soirée gastronomique porteuse de sens en soutien aux enfants atteints de cancer. Les chefs réputés Stéphane Moda du Resto Le Clan, Arnaud Marchand du Bistrot chez Boulet et Joël Laon du Château Frontenac mettront tout en œuvre pour vous épater. Réservez vos billets dès maintenant sur lecamp.qc. En collaboration avec Boulevard 102.1.
C'est le moment de foncer chez Laval Volkswagen pour vous procurer un ID.4 2024. Écoutez bien ça. On vous offre jusqu'à 17 500 $ de rabais, les taxes incluses, 5 ans d'entretien gratuit sur les éditions Pro et du financement très avantageux à 0 % pendant 72 mois. C'est du jamais vu. Ces offres sont valides jusqu'au 2 septembre ou jusqu'à l'écoulement de nos stocks. Ne manquez pas votre chance et venez nous rencontrer. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Je supervise des équipes de travail, je forme et j'encadre mon personnel. Je planifie le travail et j'assure un service de qualité à la clientèle. Mais j'ai pas le diplôme qui confirme mes compétences.
Vous vous reconnaissez? Nous aussi, on vous reconnaît. Obtenez votre diplôme collégial autrement, à distance, à votre rythme et tout en travaillant à temps plein. Voyez grand. Atteignez vos objectifs professionnels avec la reconnaissance des acquis et des compétences du Cégep Limoilou. Séance d'information en ligne. Détails au cégeplimoilou.com.
C'est la grande vente aïe chez Super C. Faire son épicerie au superc.ca. C'est gagné sur toute la ligne. On aligne même des nouveaux prix réduits chaque jeudi. Fait que tu t'enlignes pour la cueillette gratuite ou bien la livraison le jour même. Hey, c'est Super C. Détails au superc.ca.
Dévis, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandir pour ta carrière. Postule à devirecrute.ca.
Vente VIP exclusive chez Mercedes-Benz de Québec les 25, 26 et 27 août. Profitez d'un accès unique à des prix de liquidation sur nos démonstrateurs 2025 et nous reprenons tous les véhicules. Aucune offre raisonnable sera refusée.
Découvrez aussi notre toute nouvelle salle de montre entièrement rénovée et pensée pour vous offrir une expérience encore plus exceptionnelle. 3 jours seulement pour profiter d'offres exclusives chez Mercedes-Benz de Québec, l'Étoile de Québec.
Vous en avez jamais assez de vos animateurs préférés. Réécoutez les meilleurs segments des shows sur le blvd.fm et sur l'application.
T'endures ton mal de cou depuis ta fin de semaine de camping? Hey, good job, mon ami! Mais tu le sais que tu pourras aller en physio aussi, hein? Fais confiance aux pros. PCNphysio.com.
Profitez des rabais pour les groupes scolaires chez Canot Légaré. 60 % sur les canots et 40 % sur les kayaks, planches à pagaie et rabaska. Profitez-en d'ici la mi-octobre. Visitez canotavecunslégaré.com pour réserver. Canot Légaré, un coin de nature en ville.
Le 6 septembre, dès 13h, venez vivre la fête maritime familiale à l'Oasis du Port de Québec. Jeux, maquillage, crème glacée, rallye, tirage. Une journée parfaite pour toute la famille au bord de l'eau. En plus, c'est gratuit. Découvrez le monde fascinant du Port de Québec.
Cet automne, consultez les spécialistes des